Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène à Abidjan pour parler de l'accès aux soins des personnes homosexuelles, hommes et femmes, des transgenres et des prostituées. Ils et elles font partie de ce que l'on appelle les populations clés, à savoir les populations les plus vulnérables et les plus exposées à une épidémie comme celle du VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que la prévalence du VIH est d'environ 3% au sein de la population générale, elle passe à 11% chez les professionnels du sexe et atteint même les 18% chez les homosexuels. Mais le VIH n'est pas le seul problème de santé publique rencontré par ces hommes et par ces femmes. Le papillomavirus, les condylomes et certains cancers associés sont de plus en plus fréquents chez les prostituées et les homosexuels. Alors, comment assurer un dépistage efficace et organiser la prise en charge dans un pays où une spécialité comme la proctologie n'est pas développée car jugée taboue? Comment encourager des femmes lesbiennes à faire des examens gynécologiques alors qu'elles refusent tout acte intrusif? Comment protéger des professionnels du sexe qui acceptent des pratiques à risque en échange d'une rémunération plus importante? Pour le savoir, notre reporter Igor Strauss a suivi les actions de l'association ivoirienne Espace Confiance, qui effectue depuis 2004 un travail impressionnant auprès des populations les plus stigmatisées. Voici son reportage qui commence de nuit dans un célèbre bar branché d'Abidjan. Branché signifie ici, dans ce contexte très particulier, un bar gay.
Avant, on frappait les branchés à tout moment. C'est du partout, tu passes. Dès que tu es un peu efféminé, on commence à te frapper. Les gens venaient souvent dans les bars nous violenter. Voilà, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on se comporte comme des femmes, ça les dérange. Mais maintenant ça va, ici on vient, même on reste souvent dehors. Jusqu'à X, personne ne nous touche, personne ne nous regarde quoi. Ils sont habitués en fait.
Alors vous, vous êtes père éducateur.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites dans les bars branchés généralement en termes de prévention, de sensibilisation? Quel est votre rôle?
Mon rôle en tant que père éducateur, c'est, vu qu'ici il y a un bon monde de branchés, je vais faire mes sensibilisations, mes dépistages. Je viens aussi pour donner des préservatifs. Puisqu'il y a des professionnels de sexe, les trans qui gèrent les bises et autres, qui viennent souvent se chercher. Donc, je leur donne des préservatifs, lubrifiants. Voilà.
Et est-ce que vous pensez que la communauté gay et lesbienne est bien informée?
Il y a encore certains qui sont un peu réticents, vu qu'ils se disent, bon, peut-être entre nous, il n'y a pas assez de confidentialité. Il y a d'autres aussi qui se disent qu'ils préfèrent aller chez les hétéros, se faire soigner. Mais par contre, il y a d'autres qui s'ouvrent et qui viennent à notre clinique, sans problème.
C'est quoi les principaux problèmes de santé pour la communauté gay, lesbienne et trans?
Le plus souvent, c'est les infections sexuellement transmissibles, les IST, voilà. Le plus souvent, c'est de ça qu'ils souffrent.
Et le, concernant le VIH?
C'est élevé, hein.
Élevé?
Oui, c'est très élevé. Si tu prends au moins 10 personnes, ce soir que tu fais un dépistage, tu peux avoir au moins 3 à 4 positifs.
Ah, donc c'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup, oui. Mais ils n'aiment pas accepter leur statut en fait. Ils font un déni. Sur les 4, peut-être il y a 2 ou 3 peut-être qui vont accepter d'aller prendre les médicaments. Mais une personne qui va peut-être désister, il va dire non, c'est pas vrai, le test qu'on fait n'est pas certifié. C'est un peu réticent quoi. Sinon, c'est très élevé.
Vous, vous la vivez bien, votre condition d'homosexuel? Il n'y a pas de problème?
Oui, il n'y a pas de problème.
Et avec la famille, par exemple?
Bon, tout le monde accepte, sauf ma mère qui ne veut pas accepter, c'est tout.
Ah, votre mère, elle ne veut pas accepter?
Non, pas du tout. Je suis complice avec tout le monde à la maison. Mais maman, quand elle entend ça seulement là, elle veut se tuer en même temps. Elle veut même pas entendre parler de ça. Démarcher comme un garçon, je suis un homme, je ne dois pas faire comme les femmes, tout et tout. Mais bon, ça va lui passer. Elle a le temps.
Je
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous avez donc suivi le travail de l'association ivoirienne Espace Confiance dans la métropole, à Abidjan.
Oui, puisque c'est une association qui travaille sur la problématique du sida depuis 2004 et qui est très vite devenue une référence pour les homosexuels, hommes et femmes, les transgenres et les professionnels du sexe. Au début, Espace Confiance se focalisait sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles et progressivement, l'association a pris conscience qu'il y avait une vraie nécessité à développer la proctologie, une spécialité quasiment inexistante en Côte d'Ivoire. À partir de 2011, Espace Confiance a bénéficié du financement de l'ONG française SIDAction pour former des médecins et se doter d'équipements permettant le diagnostic et le traitement des pathologies anales. Et en 2016, toujours avec des fonds de SIDAction, Espace Confiance a obtenu les équipements pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus.
Alors comment cette association Espace Confiance est-elle parvenue à gagner du crédit et remporter l'adhésion de ces populations stigmatisées?
Eh bien, grâce à un travail de terrain fantastique des pères éducateurs, qu'on trouve aussi bien dans les bars branchés la nuit que sur des sites de prostitution abominables. Ces pères éducateurs font de la sensibilisation et parlent des cliniques confiance, des petites structures où tous les soins sont gratuits et anonymes, deux conditions essentielles évidemment pour faire venir ces patients.
Alors justement, Igor Strauss, vous êtes rendu à la clinique confiance de Biétry. Alors si vous habitez ce quartier d'Abidjan, inutile de la chercher, il n'y a aucune inscription, aucun panneau nulle part. Seuls les habitués et les nouveaux venus accompagnés des pères éducateurs connaissent son emplacement.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Docteur Fofana, Bamba Nana, responsable de la clinique de confiance à Biétry. Bon, il est intéressant d'avoir une structure dédiée pour les populations clés parce qu'il y a des affections qui sont liées à leur pratique sexuelle. Par exemple, il est rare qu'un prestataire pose la question « Est-ce que tu as des rapports anaux ?» C'est difficile. Dans l'entendement même du prestataire de poser la question, est-ce que vous avez des rapports avec d'autres hommes? Est-ce que vous avez des boutons au niveau de l'anus? Est-ce que, madame, vous avez plusieurs partenaires? Et des questions qui ne ressortent pas chez tous les prestataires à l'interrogatoire.
C'est-à-dire que c'est encore tabou même pour le corps médical, même pour les médecins?
Oui, oui.
Vous recevez principalement des professionnels du sexe ou plus d'homosexuels et trans ici?
Bon, auparavant, on recevait les professionnels de sexe femmes. Mais depuis 1 à 2 ans, les homosexuels sont en train de prendre le dessus sur les travailleurs de sexe. Voilà.
Et la cohabitation?
La cohabitation, bon, il y a des moments de grincement parce que les femmes trouvent que ben, c'est les homosexuels, pourquoi ils sont en train de prendre leur place? Et puis quand c'est comme ça, c'est eux, ils perdent des clients. Donc il y a une certaine jalousie. Mais je perds des clients à cause de ces... Donc ils culpabilisent plus ou moins ces homosexuels qui viennent prendre leur place. Mais ils sont obligés de se tolérer, hein, de s'accepter. Parce que c'est une seule structure, donc ils sont obligés de se tolérer. Donc ça commence à aller.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter, docteur.
Docteur Kwame Malan Jean-Baptiste, médecin, ONG Espace Confiance.
Tu vas bien?
Oui, ça va, docteur.
Ok. Tu es en couple, célibataire?
Je suis célibataire.
Ok. Tu consommes l'alcool?
Plus ou moins, souvent.
Tu fumes?
Non.
Tu te drogues?
Non, du tout.
Ok. Donc je t'avais donné rendez-vous aujourd'hui, c'est ça?
Oui.
Et c'était pour quoi déjà?
C'était pour un contrôle au niveau de, comment on appelle ça, la cotisation que vous avez faite la dernière fois.
Ok. Tu présentais des condylomes anneaux que nous avons cotérisés et tu es là aujourd'hui pour le contrôle. En fait, ce sont une sorte de verrue et qui est due à... C'est une infection à papillomavirus humain. Voilà.
Et qui, donc, sous forme de verrues sur les parties génitales, sur l'anus?
Sur l'anus, et dans la bouche, ça dépend de l'acte sexuel, de comment on le contracte, voilà.
Et ça, c'est fréquent chez les homosexuels?
C'est très fréquent. C'est très fréquent. On n'a pas la proportion exacte, mais il faut reconnaître que ça fait maintenant 5 ans que je travaille ici, mais on en rencontre de plus en plus.
Au niveau des traitements, vous parlez de la cautérisation, ça se fait facilement, c'est compliqué, comment on le traite?
Ça se fait facilement, ça dépend du degré. Mais par contre, il y a des lésions qui sont d'une gravité un peu extrême que nous référons à des spécialistes.
Vous, personnellement, pour ces fameux condylomes, est-ce que vous avez consulté rapidement? Est-ce que c'était facile d'en parler?
Concernant cette infection, c'est pas facile de pouvoir parler parce que c'est quelque chose qui fait un peu honte. Voilà. Donc, comme moi, j'ai eu des condylomes, je suis venu, puisque je venais ici au préalable et puis j'ai constaté ça vite. Donc, je suis venu directement voir le médecin et puis je lui ai demandé de quoi je souffrais. Bon, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'est pas comme les pays européens où l'homosexualité est déclarée et vue au bon œil de tous. Voilà. Donc, je pense que d'une part, les habitants homosexuels, il y a plusieurs personnes qui connaissent la clinique. Mais ceux qui ne connaissent pas la clinique ou qui connaissent, mais ils ont honte de venir parce que les personnes qui travaillent ici vont connaître déjà les statuts homosexuels. C'est pas facile pour eux de venir. Parce que ce sont des homosexuels qui se cachent aux yeux de tous. Donc, quand ils contractent cette maladie, c'est difficile d'en parler. Parce qu'ils ne savent pas vers qui aller. Et du coup, ça devient un peu bizarre. Donc, ils se mettent dans les coins et puis la maladie progresse au fur et à mesure.
Je reviens à la discrimination et à la stigmatisation. Mm-hmm. Vous, personnellement, en avez-vous été victime? Et vous disiez que vous venez du centre du pays. Est-ce que vous avez vu une différence entre les villes de province et la capitale économique, Abidjan?
Il faut dire qu'à Abidjan, les gens ont maintenant un esprit un peu ouvert. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas efféminé. Donc, du coup, je peux m'incruster facilement dans la société. Mais imaginez une personne qui est beaucoup efféminée et qui a l'apparence d'un homosexuel. Il ne peut pas aller dans certains endroits où les gens n'aiment pas les homosexuels. Donc c'est difficile. C'est-à-dire qu'il va vivre selon les autres, mais pas selon lui-même comme il a envie de vivre. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas vu au bon œil de tous dans le pays.
Merci, je vous laisse suivre la consultation.
Merci. D'accord, merci à vous.
Ok, donc aujourd'hui, on ne va pas te refaire le test de dépistage, puisque normalement, tu dois le refaire le mois prochain. On peut faire un contrôle quand même?
Pas de souci.
Ok. Donc, tu vas te lever, tu prends ta... Comme d'habitude, si tu as mal, tu n'hésites pas. Ok. Ok, j'introduis l'endoscope. Après l'inspection externe, on va... procéder à l'endoscopie augmentée. D'accord. Tout va bien. C'est bon? Ok. Donc merci, à tout de suite.
Merci. Merci.
À toi, mon rôle.
Ok, pas de soucis.
Merci, bonne journée.
Merci à vous, par Raymond.
Donc c'est très rapide, docteur, finalement.
Oui, pour ce cas, oui. Mais il y a des cas où on met plus de temps. Surtout ceux qui arrivent pour la première fois à la clinique, à qui on explique ce qu'on fait. L'examen proctologique prend plus de temps avec eux.
Merci.
Merci.
Bon, de vous, c'est de là. J'ai passé chez le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit?
En fait, mais rien de
il t'a rien dit qui puisse te réjouir, c'est ça?
C'est Jiren, assistante sociale à Espace Confiance.
Les résultats ne sont pas bons.
Hein? Il a sur moi. Il a dit que je n'étais pas stable, en fait.
Tu sais ce que ça veut dire?
Non.
Je sais pas. Ok, je suis là pour t'expliquer ce que ça veut dire. Ce que tu dois savoir, c'est que tes résultats ne sont pas bons. Ça veut dire quoi? Quand tu commences le traitement, logiquement, après 6 mois... le virus doit commencer à diminuer. Mais toi, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a forcément un problème. Donc, je suis là pour que tu m'expliques, pour qu'on parle. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
C'est au niveau des prises de médicaments, j'arrive pas à... Tantôt, quand je les prends, ça me fatigue, en fait. Et puis, bon, il y a l'oubli aussi qui fait...
De quoi?
L'oubli.
Tu ne dois pas oublier de prendre tes médicaments. L'oubli, ça peut arriver. Nous sommes des humains. Une fois, en passant, oui. Mais 2 fois, 3 fois, c'est pas normal parce que ça a des conséquences graves sur ton état de santé. Tu prends les médicaments à quelle heure?
23 heures.
À 23 heures. D'abord, pourquoi à 23 heures? C'est pas trop tard? Tu dois à quelle heure?
Bon, en fait, c'est à cause des parents, en fait. Voilà. Pour ne pas éveiller les soupçons, tout et tout.
Le deuxième problème, c'était quoi?
Quand je prends, C'est-à-dire, le matin comme ça, je sens fatigué, j'ai vertige, et puis bon, j'ai le pied qui chauffe, je peux même pas aller au travail, je peux rien faire au fait. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai mis un stop au fait.
Ce que tu dois savoir, c'est que ça ne peut pas te tuer. Ça ne peut pas te tuer. Malgré les effets secondaires, il faut que tu continues le traitement. Donc, soit tu demandes une permission au travail, soit tu fais un effort sur toi-même pour pouvoir aller au travail. C'est une situation passagère.
Vraiment, je vais faire ce que vous avez dit. Je vais voir.
Parce que vraiment. Ok, donc je crois et j'espère que tu vas écouter les conseils que je vais te donner et que à ta prochaine charge virale, ça va diminuer un peu. Hein? Ok, merci.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Dans quelles circonstances vous avez su que vous étiez séropositif?
J'étais souffrant quand je suis arrivé ici. Elle m'a proposé de faire le test. Et gentiment, j'ai accepté au fait. Et quand on m'a dit que c'était positif, j'ai pas tout de suite accepté. Pour moi, tout était fini, voilà quoi. Donc, ça a été comme un grand mal pour ma vie, au fait. Voilà. C'est ça.
Et donc, pendant combien de temps est-ce que vous avez été dans le déni?
Assez longtemps quand même, je devrais dire. 3 ans, peut-être même plus. Voilà.
Vous avez dit que donc vous preniez les médicaments à 23 heures pour éviter les soupçons des parents. J'imagine que vos parents ne sont pas au courant. Ce sera un problème de leur en parler?
Un très grand problème parce que les connaissants, ils sont tellement stricts dans... Et puis bon, sévères aussi. Donc si je venais à leur dire mon résultat, c'est sûr que ça allait être quelque chose d'inacceptable pour eux. Une déception, un truc comme ça. Donc je cherche à savoir comment est-ce que j'ai été infecté, par qui, tout et tout. Et puis bon, ça allait remonter à ma sexualité au fait. Et comme je ne veux pas qu'ils soient mis au courant de mon orientation sexuelle, c'est pourquoi j'ai préféré ne pas leur dire. Voilà. Porter la croix à moi seul.
Bonjour.
Bonjour, je suis Dr Anoma, je suis directeur de Espace Confiance.
Espace Confiance, donc, une association qui s'occupe en particulier des populations clés. Est-ce à dire qu'elles étaient complètement délaissées ici en Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le VIH?
Je pense qu'en matière de lutte contre le VIH, quand on se projette dans les années 2000, les populations clés, en tout cas dans leur globalité, n'étaient pas suffisamment prises en compte au niveau de la lutte contre le VIH. Il y avait des actions qui étaient menées pour les travailleuses du sexe, qui avaient donc une certaine visibilité et qui déjà à l'époque avaient des prévalences assez élevées. Et à partir donc de 2004-2005, donc avec l'avènement des fonds PEPFAR, il y a eu donc la nécessité de passer à l'échelle pour les travailleuses du sexe, mais sur la base aussi de ce qui avait été fait plus ou moins dans le cadre de la clinique de confiance, qui avait à partir des années 2004 intégré comme bénéficiaires les personnes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, cette problématique a également été prise en compte au niveau national et un peu plus à partir des années 2007, donc avec donc une prévalence dans cette population qui était assez élevée. Et l'expérience de la clinique de confiance qui avait commencé donc à offrir des services spécifiques à ces groupes-là a servi pour que cette problématique soit prise en compte dans les différents programmes au niveau national.
Moi, j'ai rencontré beaucoup d'homosexuels. Il y a quand même une crainte d'aller chez un médecin lambda à l'hôpital parce que telle infection sexuellement transmissible trahirait leur secret, à savoir leur pratique sexuelle. Est-ce que ça, c'est encore un vrai souci? Et est-ce que vous constatez au niveau médical encore une certaine discrimination vis-à-vis de ces populations clés? Et là, je parle principalement des homosexuels.
Je pense que c'est une réalité. Les gens sont médecins, c'est vrai, mais malheureusement, ils sont quand même aussi influencés par leur carence, par leur culture, par leur religion, etc. Et donc, Il y a ce problème qui est un problème réel. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits pour qu'il y ait des plaidoyers, etc. Mais ce n'est pas aussi simple parce que la stigmatisation et la discrimination ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est des craintes qui sont des craintes fondées. C'est vraiment la réalité. Mais je pense aussi qu'au niveau national, avec les différents programmes, il y a quand même un certain nombre de structures qui ont été renforcées, qui ont été identifiées comme étant des structures gay-friendly, disons ça comme ça, et dans lesquelles, effectivement, les homosexuels peuvent aller se faire offrir un certain nombre de services, etc. Quand je dis ça, je suis également conscient du fait que la problématique au niveau des homosexuels, et notamment tout ce qui touche aux pathologies anorectales, etc., sont pas suffisamment prises en compte. Et je connais pas beaucoup de services au niveau national qui offriraient l'anoscopie systématiquement à quelqu'un qui dirait qu'il serait homosexuel, etc., et qui serait capable de diagnostiquer un certain nombre de pathologies qui sont en lien avec les pratiques sexuelles. Donc, il y a aussi un besoin, de ce point de vue-là aussi, à renforcer le plateau technique des différentes structures, encore qu'il faudrait arriver à avoir des structures qui soient ouvertes et capables de dire, bon, finalement, ça ne nous pose pas de problème de recevoir quelqu'un qui est gay.
C'est ça, en fait, le plateau technique n'est pas adapté à la situation sur le terrain ?
Alors, le plateau technique n'est pas complètement adapté à la situation au niveau du terrain. Je pense que même quand on prend une structure comme la nôtre, qui est une structure spécialisée, on se rend bien compte que, par exemple, les diagnostics des affections qui sont liées, par exemple, aux pratiques buccales, on ne peut pas les diagnostiquer, sauf si elles sont arrivées à un certain niveau de complications. Donc oui, même dans une structure spécialisée comme la nôtre, qui est quand même considérée comme un peu à la pointe sur cette problématique, on a aussi quand même des limites. Donc vous imaginez un peu ce qui se fait ailleurs dans les autres structures, etc. Donc c'est vrai qu'il y a la nécessité de renforcer les plateaux techniques. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à faire. En tout cas, nous, on va pousser pour que finalement le diagnostic des IST, la prise en charge se fasse différemment de ce qui se fait aujourd'hui. Parce que dans le cadre de l'accord qu'on a fait avec les HSH, on s'est rendu compte qu'on a quand même des prévalences en ce qui concerne les IST, certaines autour de 18, voire 20%. Donc là, il y a cette question de savoir si finalement il ne faudrait pas passer à ce qu'on appelle le traitement présomptif, c'est-à-dire qu'à chaque contact avec un HSH, lui donner des molécules qui soient capables de faire une couverture assez large de différentes pathologies éventuelles en ce qui concerne les IST.
Merci Camille Noma.
Merci.
Je suis né à Telsville, à Bigansadacité. On m'appelle Anofelae, mon quartier il m'appelle Black Brésil. J'ai quitté le quartier pour bengue, bengue pour me chercher. Oh. Dans la vie quand tu veux percer, pourquoi y'a des gens qui veulent te blesser? Les gens n'aiment pas les gens, celui qui a dit ça n'a pas menti. Oh. Maman tu es parti, c'est un bisou, ton fils est là, il s'accroche toujours. Maintenant je les attends venir. Fais-la par ci, fais-la par là-haut. Le French toi-même tu connais. On est ensemble parce qu'on se ressent.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour parler de l'accès aux soins des homosexuels hommes et femmes, des transgenres et des prostituées. Trois catégories de personnes victimes d'une très forte stigmatisation. Et cette discrimination, fondée sur des motifs traditionnels et religieux, a des conséquences directes sur la santé de ces hommes et de ces femmes, car l'offre de soins ne répond pas à leurs pratiques sexuelles. Comment prendre en charge, en effet, des pathologies localisées dans une zone corporelle aussi taboue que la zone anale, quand la proctologie n'est presque pas développée et que certains médecins refusent encore de soigner des personnes au prétexte qu'elles sont homosexuelles? Comment sensibiliser les professionnels du sexe qui acceptent des pratiques à risque plus rémunératrices, mais bien sûr dangereuses pour leur santé? Alors voici tout de suite la suite du reportage d'Igor Strauss qui a suivi l'association ivoirienne Espace Confiance, spécialisée dans la prise en charge des populations clés.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Hello.
Je suis Madame Addo Marie-Diane, responsable des activités communautaires à Espace Confiance. Nous sommes sur un site prostitutionnel dénommé Petit Ghetto d'Anoumambo, au sein de la commune de Makori.
Alors pour décrire, ici c'est des toutes petites baraques de bois, de tôle, on voit les fils électriques qui pendent, c'est des toutes petites ruelles. Je pense que le terme ghetto n'est pas galvaudé, c'est vraiment un ghetto.
Oui, c'est vraiment un ghetto, de par son aspect, de par le fait que les femmes viennent se cacher en quelque sorte. C'est une cachette pour elle. Et c'est un milieu qu'elle maîtrise en fait.
Et alors si on devait faire un portrait robot de ces femmes, est-ce qu'elles sont plutôt jeunes, plutôt âgées? C'est plutôt des Ivoiriennes, plutôt de pays limitrophes?
Dans le ghetto ici, on a plus de femmes jeunes.
Des mineurs également?
Non, on n'a pas de mineurs. On n'a pas de mineurs. On a des femmes ivoiriennes. On a des anglophones, des nigérianes, des ghanéennes. C'est très mélangé. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique.
Est-ce que justement, il peut y avoir des petites rivalités entre femmes?
Oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chaque jour, on assiste à ça.
Alors, pardon, excusez-moi, madame, je ne vous entends pas. Je vous laisse déjà vous présenter.
Ouais. Je suis Dédi Rosine, EP dépistage à Espace Confiance.
EP, c'est quoi?
C'est éducatrice de paix. Voilà. Donc, sur nos différents sites, s'il y a une qui vient, par exemple, d'arriver et que les clients arrivent, qui voient qu'elle est nouvelle, d'après le mais c'est ce thème qu'ils utilisent, elle est fraîche. Donc, tout le monde veut goûter, tout le monde veut voir c'est comment. Du coup, les autres se retrouvent un peu lésés, il n'y a pas de clients. Donc, ils sont venus chercher des histoires. Des fois, même, on la frappe et on la chasse du site.
La rivalité dans la prostitution est très grave. Hein. Où il y a l'argent, il y a la rivalité. C'est un peu comme ça.
Alors, prostitution de misère, vie de misère, ghetto de misère. Comment concrètement ça se traduit sur l'état de santé de ces femmes?
On peut dire merci aux ONG qui viennent en aide, franchement.
Merci même à Espace Confiance qui ménage tous les moyens possibles pour les mettre à l'aise déjà, point de vue santé, parce que les soins sont carrément gratuits, parce qu'en Côte d'Ivoire, les soins gynécologiques sont extrêmement chers, depuis la consultation jusqu'à l'achat des médicaments, en passant par les examens. Nous ne sommes pas médecins, nous sommes juste éducatrices de paix. Nous venons leur proposer le dépistage, et puis bon, celles qui sont volontaires, on les conduit à la clinique pour plus de soins. Donc on arrive, quand elles nous voient, c'est comme un soulagement pour elles, qu'on explique ce que nous faisons, elle peut te prendre et puis elle te montre même carrément son intimité pour voir combien de fois elle souffre. Donc c'est un soulagement même quand nous arrivons pour leur dire que la clinique est là pour vous. Venez, venez, c'est vraiment, je ne sais pas, les mots même me manquent pour exprimer un peu le besoin. En fait.
Et au niveau du VIH, est-ce que vous avez une idée de la prévalence ici?
Je peux dire que je suis un peu mal placée pour estimer en pourcentage. D'abord parce que je suis tenue même moi-même par le secret professionnel. Néanmoins, c'est la situation, c'est sérieux. Voilà, c'est ce que je peux m'arrêter là.
Oui. Maman, si tu veux assister à la séance, tu peux venir.
Mais est-ce qu'on peut avoir au moins quelques moments pour venir assister à la séance?
Je vais essayer.
Viens, venir t'asseoir. Aujourd'hui, on va parler des IST. Qui a déjà entendu parler des IST?
C'est maladie. Bon, c'est bien sûr.
Je vais bien vous expliquer et puis vous allez bien comprendre. Comme ça, si quelqu'un vous demande quelque part là, vous aussi là, vous pouviez parler. Hein? On dit IST, ça veut dire infection sexuellement transmissible. Comment on attrape ça? Comment on attrape les IST? Tu n'as pas mis capote ou bien tu as mal mis capote, capote est cassée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a ça, qui a donné à l'autre. Hein? Vous avez compris ça, non? Maintenant, comment on fait pour éviter les IST? Tu mets capote. Tu as vu, non? Quand quelqu'un il est dressé, il est arrêté, il est prêt, il veut travailler, il y a petit lot là, ça sort. Petit lot là, il y a maladie dedans. Donc si tu as mis capote, que tu n'as pas bien mis capote, l'eau qui est sorti là, tu as vu que ça va aller dans ton toto. C'est pas ça? Ça va aller dans ton toto. Donc s'il est malade, toi aussi, maladie va te prendre. C'est pas ça? Ça coûte de ça. Quand quelqu'un client est venu, il veut travailler avec nous là, on n'a qu'à dire capote forcée. Même s'il dit que beaucoup d'argent, il n'y a pas capote, il n'y a pas travail. Hein? C'est comme ça.
Alors,
Ça va, madame?
Oui. Ah, à ce mot. Oui, par la grâce à Dieu.
Alors, depuis combien de temps vous habitez ici au ghetto, madame?
Il a fait les années. Ça n'a pas arrivé 10 ans.
Ça fait déjà 10 ans. Alors, comment ça se passe ici, la vie?
C'est un peu. On se débrouille un peu.
Est-ce que vous arrivez à vivre quand même?
Depuis les années, 10 ans là. Si ça ne va pas là, il ne va pas vivre. Il y a beaucoup qui sont partis. La mort, maladie, mais par la grâce à Dieu, 10 ans là, je suis encore sur mes pieds.
Ici, vous avez vu beaucoup de femmes partir,
beaucoup
décédées.
De femmes, filles, voilà.
La maladie.
Il y a d'autres, moi aussi, il y a d'autres, ils s'en vont au village. Princess.
Et la santé, ça va comment?
Par la grâce à Dieu, la santé, ça va.
Donc là, on a les pères éducatrices d'Espace Confiance qui viennent. Ça vous arrange un peu, ça?
Oui. En tout cas, avec ma mamie, ça passe. Ça passe bien. Elle a bon cœur avec nous, elle ne se fâche pas. Même si nous, on ne fait pas vite, on fâche, mais elle a bon cœur, elle se met son cœur un peu, puis elle prend les filles pour partir.
Vous êtes déjà allé à la clinique Espace Confiance?
Oui, je vais là-bas.
Et c'est comment là-bas?
C'est bon.
C'est bon?
Tout c'est gratuit.
Est-ce que le sida, c'est un gros problème pour les filles ici ou pas?
Ah, en tout cas, parmi nous là, je ne sais pas qui a assez d'eau, mais tout ça est dans la main de Dieu. Pareil, quand tu vas, on te contrôle là. C'est toi avec docteur.
Vous n'en parlez pas entre vous, ça?
Non.
C'est un secret?
André, papa me dit.
Et c'est combien? Combien ils payent les clients généralement?
Pour faire passage.
Ouais.
C'est 1000 francs. C'est 1000 francs le passage.
Et ils mettent des préservatifs ou pas?
Si.
Mais est-ce qu'il y en a qui préfèrent sans préservatif?
Ah, moi dans mon côté sûrement là, j'ai peur dans ma vie. Il veut vivre longtemps. Donc, je préfère prendre mon capote à 1000 francs. S'il y a d'autres qui font sans capote là, je ne sais pas.
Et ils sont gentils généralement, les clients?
En tout cas, il y a d'autres qui ont pitié. Ils peuvent te donner l'argent. Il y a d'autres aussi. Ah, ça ne va pas. Mais tu vas attraper ton cœur. Parce que déjà, tu n'es plus son là. Tu vas attraper ton cœur. Puis, il va faire. Puis, il va sortir. Comme ça. Princesse! Princesse!
C'est qui, princesse?
C'est ma fille.
Vous avez combien d'enfants, vous, madame?
Il y a 4. Avant-hier, viens voir.
Et vous vivez avec les 4 enfants ici?
Non, il y a 2 au Ghana et puis il y a 2 ici.
Bon, merci.
Merci à vous aussi. Faites bonne journée. Amo! J'essaie de voir ma messieurs, mais interview, c'est dit au minimum. Interview, bien, il y a pas de.
Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes père éducatrice aussi?
Oui, je suis une père éducatrice. Je m'appelle Touré Ami. Espace Confiance, je suis là. Ça vaut 18 ans. Hein. Je suis dedans, donc je suis PS. À part parce qu'ils m'ont choisi.
Ah, vous aussi, vous êtes professionnelle du sexe?
Je suis professionnelle du sexe. Donc, on vient, on sensibilise nos pères qui sont comme nous. On parle avec eux parce que c'est un peu difficile. Donc, c'est ce que je peux dire.
Et alors, vous, comment vous êtes devenue père éducatrice?
Moi, d'abord, quand j'ai commencé à sortir, j'ai une amie qui travaillait à Espace Confiance qui est venue me dire, ah, comme tu ne te sens pas bien, tu es malade, allons à la clinique. Donc, on est allé à la clinique. La clinique m'a regardé, elle a vu que j'étais infectée. Donc, quand il y avait...
Par le VIH.
Ça, voilà, doucement, personne ne sait. Donc, elle a vu qu'il y avait ça. Donc, la clinique m'a pris pendant 7 ans, il n'y a pas le médicament.
Ça, c'était il y a combien de temps?
Il y a longtemps, hein? Il n'y avait même pas les médicaments. C'est là, mais ça, c'est
mon. C'était avant 2004.
Voilà. Donc, j'ai fait 10 ans dans la maladie. Pendant tous ces 10 ans, j'étais avec la clinique. La clinique s'est occupée de moi. Ils m'ont bien aidé jusqu'à. J'ai plus survécu. Maintenant, quand les médicaments sont venus, on dit tu payes 5 000, tu as 3 mois pour prendre les médicaments. Donc, j'ai commencé à prendre les médicaments. Donc un coup, ça allait maintenant. Le médicament était efficace. Maintenant, je vois que j'étais bien partie. Donc il y a des gens aussi qui refusaient de faire le test. Donc, il y a les cas qui sont difficiles. Souvent, je viens envers eux. Je leur dis, ah, je suis infectée. Regardez-moi, je suis comme vous. Prends bien le médicament. Je les conseille. On ne baisse pas sans capote. Nous, là, on a été naïfs. On a appris parce que à ce moment il n'y avait pas la sensibilisation. Mais aujourd'hui, on a compris. Il faut parler à les autres. On n'est pas qu'ils vont être comme nous.
Priorité santé, reportage.
Igor Strauss, malgré les efforts déployés par de nombreuses ONG pour sensibiliser et soigner les professionnels du sexe, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup à faire.
Bien, surtout sur les sites de prostitution de misère comme le ghetto. Alors j'ai visité d'autres sites de prostitution de femmes venant du Ghana ou du Nigeria et la situation sanitaire est catastrophique. Les maladies de peau, la gale, le manque d'hygiène viennent compléter un tableau déjà bien sombre avec les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Espace Confiance dispose d'un bus qui sillonne ces lieux de prostitution avec un médecin, deux infirmières, des pères-éducateurs et un technicien de laboratoire pour faire les analyses. Mais leur travail est difficile car ces femmes sont souvent très jeunes, peu instruites, ne parlent pas français et changent régulièrement de lieu, ce qui complique évidemment leur suivi.
Nous sommes toujours à Abidjan pour le dernier volet du reportage d'Igor Strauss auprès de l'association Espace Confiance qui s'est spécialisée dans la prise en charge des populations clés. Et nous voici à présent dans la clinique Confiance de Youpougon dont la particularité est d'être l'un des principaux centres de soins des femmes homosexuelles.
Bonjour.
Bonjour. Moi c'est Kadi Jomondé, je travaille à Alternative Côte d'Ivoire en tant qu'éducatrice de paix sur le projet Jean et VIH. J'ai 31 ans.
Vous êtes vous-même lesbienne ?
Oui, je suis lesbienne.
Est-ce que le fait d'être lesbienne a été problématique à un quelconque moment dans votre vie ? Qu'est-ce que ça représente finalement d'être fille homosexuelle ici en Côte d'Ivoire ?
Franchement, en Côte d'Ivoire, on se cache beaucoup. Que ce soit lesbienne, bi, gay, on se cache. Si tu vas te présenter chez quelqu'un pour avoir un travail et que tu te présentes en tant que lesbienne ou trans, ça fait un peu bizarre. Concernant le côté santé, c'est un peu, par exemple, je vais voir un gynéco. Ça serait un peu compliqué d'expliquer le problème que j'ai. Elle va me poser des questions. Comment tu as attrapé cette infection? Je ne vais pas lui dire que c'est parce que j'ai eu des prénotations digitales, que j'ai eu ça. Donc, je suis obligée de mentir, je suis obligée de tourner autour du pot, tout ça, pour ne pas aller au fond, pour ne pas qu'elle me juge, tout ça. On a peur d'être jugé, au fait. Donc, du coup, quand on va chez le médecin, c'est un peu compliqué de dire réellement de quoi on souffre.
Vous, ça vous est vraiment arrivé d'aller chez un gynécologue et d'être gêné, de ne pas pouvoir expliquer?
Oui.
Pour de vrai?
Oui, oui, pour de vrai, oui. Et je suis partie avec ma maman. En ce moment, elle ne savait pas encore que j'étais lesbienne. Donc, le médecin était là, j'avais une infection et je ne savais pas comment expliquer au médecin comment j'avais attrapé ça. Et c'est après, le médecin a fait sortir ma maman et il m'a demandé réellement qu'est-ce qu'il y a. Et bon, j'ai dit, je vais lui dire. Et apparemment, j'ai mal fait. Parce que quand je lui ai dit que je suis homosexuelle, il allait dire à maman que ah, ta fille pratique des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont contraires à la religion, tout ça. Donc, quand elle m'a dit, allons voir le médecin encore, j'ai refusé parce que je me dis, il est censé garder la confidentialité, mon secret. Il n'est pas obligé de dire ça à maman. Mais s'il a dit ça à maman, c'est que ce n'est pas la peine d'aller le voir. Donc, je me suis mise de mon côté.
Et ça, est-ce que c'est un médecin et manque de chance, vous êtes tombé sur lui? Ou est-ce que c'est quelque chose de courant?
Oui, c'est quelque chose de courant. Donc, par moment, on comprend, on se dit c'est normal. On est en Afrique, donc ça ne peut pas changer. Même si nous, on essaie de lutter, on sait que par moment, on se décroche, on se dit bon, ce qu'on fait, ça va pas aboutir. Ils vont jamais nous accepter dans la société. Ils vont toujours nous renier, ils vont toujours nous rejeter. Mais on s'y force quand même, on y croit. On espère qu'au bout, ils vont réussir à nous comprendre. Mais c'est pas vraiment facile.
Merci.
Merci.
Bonjour.
Docteur Cho Charlène, responsable du Drop-in Center Espace Confiance. En Afrique, on se dit que la femme, c'est pour faire des enfants. Et une femme qui a des rapports avec une autre femme, déjà, on se dit qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de procréation. Donc, la stigmatisation est vraiment plus accentuée chez les femmes que chez les hommes. Or, le problème, c'est que quand c'est dissimulé, elles n'arrivent pas très souvent à avoir accès aux soins de santé parce qu'elles n'affirment pas leur orientation sexuelle de peur d'être réprimandées.
Est-ce qu'on peut résumer en disant que pour les lesbiennes, l'accès aux soins est plus compliqué et qu'il y a des entraves à l'accès aux soins?
Oui, il y a des entraves à l'accès aux soins parce que celles qui ont l'identité de genre masculin n'acceptent forcément pas ce qu'on appelle, ce que nous on appelle consultation gynécologique. Elles n'acceptent pas cela.
Et pourquoi?
Bon, parce qu'elles se considèrent comme un homme. Donc, recevoir peut-être des instruments au niveau de l'appareil génital, c'est vraiment pas facile pour elles. Voilà. Et là, on termine par mon bureau.
Ah, bah, il fait frais.
Ouais.
Mais du coup, docteur, est-ce que pour ces yossi, ces femmes à l'apparence d'homme qui refusent les examens gynécologiques, est-ce qu'il y en a certains qui peuvent développer des cancers du col de l'utérus par absence de prévention?
Partant de la logique que si elle a des lésions précancéreuses, elle pourra au fil du temps développer un cancer du col parce qu'elle n'a pas été dépistée à temps. Donc c'est surtout ce point-là que nous mettons en avant pour que les yossi acceptent de faire le dépistage du cancer du col. Mais on ne pourra faire aussi le dépistage du cancer du col que chez un yossi qui a une ouverture vaginale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ouverture vaginale, on ne peut pas introduire un spéculum. C'est vrai qu'il y a des spéculums pour les vierges. Moi, je n'en ai pas encore vu.
Le spéculum, c'est cet outil qui permet d'écarter les parois du vagin pour aller voir le col de l'utérus.
Voilà. Donc, pour pouvoir l'introduire, il faut qu'il y ait une ouverture vaginale. Et pour chaque ouverture vaginale, on peut adapter un certain type de spéculum. Mais pour une personne, un yossi qui n'a jamais eu de rapport sexuel pénétrant, c'est-à-dire que l'hymen est encore là, on ne sait pas, il y a plusieurs sortes d'hymen, mais on ne peut pas envoyer un appareil pour le traumatiser et pour le dévirginiser. Voilà, donc pour les yossi, j'insiste plus sur les yossi, parce que il y a des yossi qui sont bisexuels. Donc pour ce genre de cas-là, j'insiste beaucoup pour le dépistage du cancer du col. Pour ceux aussi qui ont eu des rapports sexuels avant avec des hommes, l'ouverture vaginale est là, c'est vrai, ce ne sera pas très franche, mais avec un certain type de spéculum, ils pourront bénéficier du dépistage du cancer du col. Donc le fait qu'ils refusent est un peu, surtout ces deux types de populations que je viens d'identifier, c'est un peu difficile de faire la prévention. Certains acceptent. Sur 10, il y a au moins 2 ou 3 qui acceptent de faire le dépistage du cancer, des lésions précancéreuses du col de l'utérus.
Merci docteur. Bonjour.
Bonjour. Je me nomme Aor Hadi Faidi, à l'état civil.
Et vous avez quel âge?
J'en ai 27.
Alors je vais vous décrire. Vous avez un look pantalon, polo Lacoste, basket, petite dreadlocks, plutôt un type garçon. Est-ce que la description vous correspond?
Effectivement, elle me correspond parce que c'est tout moi. Je suis une masculine, donc je l'accepte. Voilà.
Donc c'est ce qu'on appelle ici un yossi.
Oui, un yossi.
C'est-à-dire une fille qui a l'aspect d'un garçon.
En effet. Effectivement, une fille qui a l'aspect d'un garçon, dans l'esprit surtout, pas forcément le physique. Mais l'esprit aussi, il est très masculin.
Alors, c'est-à-dire?
Tu peux avoir une fille en face de toi, qui est déjà masculine physiquement, mais elle a tout l'air dans la tête d'être un homme. Elle se sent garçon dans la tête. Elle ne se fait pas appeler au féminin, mais plutôt au masculin.
C'est votre cas?
Oui, c'est mon cas.
Alors, c'est quoi votre prénom de garçon?
Mon prénom de garçon, c'est Kader.
Et d'où il vient ce prénom? C'est vous qui l'avez choisi ou ça vient d'où?
Bon, je ne l'ai pas choisi. Au départ, ce prénom est venu de par certains amis. Et ensuite, certains membres de la famille aussi l'ont pris. Et puis bon, c'est parti quoi.
Ah, la famille aussi l'utilise?
Oui, certains membres. Certains membres. À qui, en tout cas, ça ne dérange pas que je sois petit garçon ou garçon manqué. Généralement, je peux dire une grande partie de la famille qui ne peut pas l'accepter. Parce que les coutumes de chez nous ne l'acceptent pas, tout simplement.
Est-ce que vous pensez que c'est facile pour un yossi de vivre aujourd'hui à Abidjan?
Bon, ça dépend de la situation de vie. Je prends un exemple pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de moyens. Ce sera un peu mal vu au vu de sa famille, qui aussi n'a pas de moyens confortables aussi, pour au moins l'encourager à le faire. Comme on le dit, on dit, tu n'as rien, et c'est toi qui fais les vilaines choses. C'est ce qu'ils ont tendance à dire. Alors que si c'est un aussi qui a au moins les moyens, je ne dis pas la totalité, mais au moins le minimum, et à ce niveau-là, lui pourra s'imposer, il pourra s'assumer.
Donc il y a une discrimination par l'argent?
Oui, en effet, on peut dire ça comme ça.
Dernière question, et je reviens à vous. Comment vous vous voyez dans l'avenir?
Être avec la personne avec qui je suis là présentement, et avoir des enfants avec cette personne-là, et vivre pleinement ma vie, quoi, sans chercher à comprendre le pourquoi, du comment, est-ce qu'on me juge et tout et tout.
Alors vous soulevez un problème essentiel. Vous pensez que la société ivoirienne est prête à accepter que des couples homosexuels, hommes ou femmes, aient des enfants? Puisque ça se fait maintenant, hein.
Non, mais c'est vrai que ça se fait, mais la société ne peut pas l'accepter. En Côte d'Ivoire, ici, si tu décides de vivre avec la personne avec qui tu es en relation, va falloir faire croire que soit c'est ton ami, ta collègue de travail et tout, pour ces raisons-là, quoi. Voilà, ou soit vous vivez en coloc, c'est tout. Mais sinon, c'est pas possible.
Merci, Kader.
Merci à vous.
Le défi de la santé des homosexuels, des transgenres et des prostituées. C'était un reportage d'Igor Strauss réalisé par Didier Bleu. Merci Igor et à très bientôt dans Priorité Santé.
À bientôt Caroline.
Et demain nous parlerons de la dépigmentation, risques et complications de l'éclaircissement cutané. Si vous avez des questions, des témoignages à apporter, bien sûr, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous appeler 33 1 84 22 75 75 ou laissez un message sur la page Facebook de l'émission. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.